Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. Et c'est l'heure de retrouver Thomas Cluzel pour le journal. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous irons tout d'abord en Nouvelle-Zélande où la première journée d'audience du procès de l'auteur des attentats de Christchurch vient tout juste de s'achever pour la première fois. Les rescapés, les proches des victimes de la tuerie se sont retrouvés face à leur bourreau.
Dans votre journal également, la situation en Biélorussie, des dizaines de milliers de manifestants anti-gouvernementaux ont à nouveau envahi les rues de Minsk hier.
Oui, au point que l'armée et non plus la police indique qu'elle assurera désormais directement le maintien de l'ordre.
En France, alors que la situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus continue de se dégrader, le gouvernement a décidé de repousser à la semaine prochaine la présentation de son plan de relance.
La semaine prochaine, c'est-à-dire à l'heure de la rentrée des classes qui inquiète nombre de Français. Et puis l'invité de la rédaction aujourd'hui dans une vingtaine de minutes, le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, après que Jean-Luc Mélenchon a quasiment annoncé hier devant ses troupes sa candidature à la prochaine présidentielle. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table, deuxième partie.
Le désir en question, on va s'en remettre entre les mains prudentes. Mais experte de l'une de nos pionnières en littérature, en féminisme aussi, c'est Anaïs Nin qui revient dans cette rentrée littéraire à travers une très très belle BD graphique, celle de Léonie Bischoff, et à travers les mots aussi de la traductrice et romancière Agnès Dessartes. Le désir est-il encore libérateur? On en parle dans une vingtaine de minutes.
Merci Olivia et à tout à l'heure. Durant toute la durée du récit de son carnage, Brenton Tarrant est resté impassible et silencieux. Ce matin se tenait la première journée d'audience du procès de l'auteur des attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande, une attaque sanglante au cours de laquelle cet Australien de 29 ans, suprémaciste blanc, avait tué 51 fidèles musulmans dans deux mosquées. C'était en mars 2019. Pour la première fois depuis la tuerie, survivants et familles de victimes ont donc fait face ce matin au tueur. Le temps d'une audience, certains ont choisi de lui pardonner, d'autres non, mais tous ont pu lui dire en face leur douleur. Compte rendu d'audience signé de notre correspondant à Sydney, Grégory Pless.
L'émotion était palpable aujourd'hui dans l'enceinte de la haute cour de Christchurch, un an et demi après l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Parmi ceux qui ont pris la parole, Mesoun, qui a dit toute la colère que lui inspirait l'assassin de son fils.
You transgressed?
Vous avez commis un crime et pensé que vous pouviez nous briser, mais vous avez lamentablement échoué. Notre foi en l'islam est devenue plus forte et nos êtres chers sont des martyrs.
Mohamed, lui, a été blessé lors de l'assaut de la mosquée Al-Nour, mais il a survécu. Ce n'est en revanche pas le cas de son fils Atta, dont il n'a appris le décès que 3 jours après l'attentat.
Pendant 3 jours, nous n'avons eu aucune information concernant Atta. Puis nous avons appris la terrible nouvelle. Atta est mort. J'ai rassemblé mes forces, puis récité un verset du Coran qui signifie « À Allah nous appartenons et à lui nous reviendrons ».
Une quarantaine d'autres témoins vont s'exprimer dans les jours qui viennent. Certains qui n'ont pas pu être présents vont le faire par visioconférence, avant que le prévenu, qui a choisi de ne pas être représenté par un avocat, puisse à son tour prendre la parole. Il encourt la prison à perpétuité.
Ni la pluie, ni les hommes en uniforme postés dans les avenues de la capitale biélorusse n'auront découragé les citoyens hier pour le deuxième dimanche consécutif. Et après 2 semaines d'un mouvement de protestation historique, les partisans de l'opposition se sont à nouveau mobilisés en masse à Minsk pour réclamer le départ de l'inflexible président Loukachenko. Pas de quoi impressionner visiblement le dernier dictateur d'Europe qui, dans une opération de propagande habilement diffusée par ses services de communication, a aussitôt multiplié les menaces et les mises en garde. Vêtu d'un gilet pare-balles, un fusil d'assaut entre les mains, on le voit remercier les forces de sécurité pour leur travail après avoir traité les manifestants de rats. Un peu plus tôt déjà, son ministre de la Défense avait d'ailleurs lui aussi donné le ton en traitant les partisans de l'opposition de fascistes. De quoi illustrer donc l'état d'esprit des autorités face à la contestation? Pour autant, faut-il craindre un recours effectif à la violence à l'égard de ceux qui aujourd'hui réclament pacifiquement mais fermement un changement politique? Élément de réponse avec notre envoyé spécial Eric Bigala.
Les images d'Alexandre Loukachenko sortant de son hélicoptère Kalachnikov en main et diffusées par les médias du pouvoir hier soir n'ont pas vraiment surpris. La menace de brutalité à l'encontre des manifestants n'est pas une menace en l'air. La répression des premiers jours après le scrutin a déjà fait 6 morts et près de 70 disparus. Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Linas Linkevičius, s'en offusque.
Employer la force contre les citoyens, c'est vraiment brutal. Ils devraient comprendre que ce n'est ni acceptable ni tolérable dans un État européen, quel que soit son régime.
Pour Mihail Prokoudin non plus, les menaces de Loukachenko ne sont pas une surprise et le jeune activiste biélorusse se prépare au pire. La liberté ne vient pas sans sacrifice, dit-il. Police, forces anti-émeute ou KGB ne sont pas intervenus hier contre la manifestation de Minsk, mais ça ne veut pas dire qu'ils resteront éternellement l'arme au pied.
Bien sûr, il peut encore lâcher ses chiens et tirer sur les gens. Il est capable de tout. On sent bien qu'il craint pour son pouvoir. Il sait qu'il a du sang sur les mains et qu'il répondra de ses crimes devant la loi.
Mais Mihail Prokoudin en est certain, les jours de Loukachenko sont comptés comme ceux de tous les régimes autoritaires.
Ces régimes tombent tous, tôt ou tard, de manière différente à chaque fois, mais ils ont tous leurs points communs et Loukachenko ne fait pas exception.
Une seule chose de sûre, l'opposition biélorusse n'appelle aucunement à un renversement par la force d'Alexandre Loukachenko. Elle semble attendre que son régime tombe, pour ainsi dire, de lui-même, comme un fruit mûr.
L'armée israélienne a procédé à de nouveaux bombardements aujourd'hui contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza, en représailles à des lancers de ballons explosifs et incendiaires. Voilà plus de 2 semaines maintenant que les tirs depuis l'enclave palestinienne vers le territoire israélien visent à faire pression sur l'État hébreu pour qu'il autorise l'entrée de l'aide financière mensuelle du Qatar dans l'enclave telle que prévue dans l'accord de trêve. Et puis, ces hostilités surviennent au moment même de la visite à Jérusalem du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui est arrivé ce matin pour une tournée de 5 jours au Moyen-Orient, tournée axée sur l'accord de normalisation entre Israël d'un côté et les Émirats Arabes Unis de l'autre, accord auquel les Palestiniens sont opposés. Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Alors, Mike Pompeo vient donc faire le service après-vente, en somme, de ce fameux accord avec les Émirats que vous allez nous préciser. Mais plus encore, peut-être Frédéric, le secrétaire d'État américain a tenté de rassurer son allié historique Israël.
Oui, alors le service après-vente, d'abord, c'est un pas vers un Moyen-Orient plus stable et plus prospère, déclare Mike Pompeo. Il vante les opportunités technologiques, scientifiques et touristiques qui s'ouvrent. Il espère aussi que d'autres nations arabes vont reconnaître l'État d'Israël. Voilà pourquoi il doit ensuite se rendre à Bahreïn et au Soudan, qui seraient les prochains pays sur la liste. Rassurer Israël ensuite, car en marge de cet accord entre Israël et les Émirats, les États-Unis pourront vendre aux Émirats leur avion de chasse F-35 parmi les plus perfectionnés au monde. Comme ça, le candidat Trump pourra se vanter de soutenir les usines d'armement américaines et leurs ouvriers. Mais cela inquiète beaucoup en Israël, car la loi américaine garantit aux Israéliens que normalement, ils sont les seuls au Moyen-Orient à avoir accès au matériel militaire américain de pointe. Tollé en Israël, des éditorialistes, des figures de l'opposition, des experts issus des milieux militaires s'insurgent que Netanyahou ait laissé passer ça et qu'il n'ait jamais tenu ses ministres centristes des affaires étrangères et de la défense au courant. Mike Pompeo promet donc que les Américains honoreront cette préférence pour Israël, tout en assurant aux Émiratis qu'ils auront les armes dont ils ont besoin. Vous voyez, Thomas, l'ambiguïté demeure. En revanche, aucune ambiguïté sur l'Iran, et cela fait toujours plaisir à Netanyahou. Ils n'auront jamais l'arme nucléaire, déclare Pompeo, qui promet d'utiliser tous les outils à sa disposition. Il a entamé pour cela à l'ONU un bras de fer avec les Européens de l'Ouest, les Russes et les Chinois, qui ne veulent pas de nouvelles sanctions contre Téhéran, alors que Washington veut les renforcer.
Merci Frédéric Mettezo, en direct de Jérusalem. Et puis j'invite les auditeurs à lire votre article « Le jeu diplomatique périlleux de Benjamin Netanyahu au Moyen-Orient » sur le site franceculture.fr. Donald Trump n'aura finalement pas le droit à la grand-messe populaire sur laquelle il escomptait pour se relancer dans la course à la présidentielle. Crise du coronavirus oblige, la convention républicaine qui s'ouvre aujourd'hui en Caroline du Nord sera majoritairement virtuelle. Seule une poignée de délégués a prévu de faire le déplacement. Ce qui n'empêchera pas d'ailleurs Donald Trump de se rattraper en intervenant largement lors de chacune des 4 journées de cette convention, là où traditionnellement les candidats ne s'expriment qu'en clôture à l'apogée de l'événement. Il faut dire qu'en retard dans les sondages face à son adversaire démocrate Joe Biden, l'actuel locataire de la Maison-Blanche doit reprendre de l'élan. Et c'est ainsi que beaucoup s'attendent à ce que le président revienne rapidement sur sa rhétorique habituelle qui polarise plutôt qu'elle ne rassemble, que ce soit sur l'ordre public, l'immigration ou bien encore les finances publiques. C'est une rareté météorologique qui s'apprête à frapper les États-Unis. Le pays se prépare en effet à l'arrivée coup sur coup de deux ouragans dans la même région, en l'occurrence le golfe du Mexique. La tempête Marco, tout d'abord devenue un ouragan, devrait toucher la Louisiane aujourd'hui, puis dès demain, ce sera au tour de la tempête tropicale Laura d'atteindre à son tour la Louisiane. Pour l'heure, ce sont les Cubains qui redoutent son passage, notamment près de la capitale, La Havane. La veille, la tempête avait déjà provoqué d'importantes inondations en Haïti et en République dominicaine, tuant 12 personnes. Au deuxième jour des négociations entre les putschistes désormais au pouvoir à Bamako et la délégation de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la junte a indiqué hier prévoir une transition de 3 ans pour revoir les fondements de l'État malien. Les militaires ont par ailleurs donné leur accord pour libérer le président Keïta, détenu depuis le coup d'État de mardi dernier. Quant au Premier ministre, arrêté en même temps, il devrait lui pouvoir rejoindre une résidence sécurisée à Bamako. Alors ce coup d'État militaire dénoncé par la communauté internationale n'a suscité en réalité aucune opposition notable à Bamako. Les Maliens ont repris leurs activités dès le lendemain du putsch. La télévision nationale a poursuivi ses programmes comme si de rien n'était. Et vendredi dernier, les militaires ont même été acclamés par des milliers de personnes dans le centre de la capitale. Il faut dire que l'incapacité des autorités en place à endiguer l'insécurité qui règne dans le pays ne leur avait jamais valu une très grande popularité. Reste désormais à savoir, Valérie Crova, quel crédit donc accorder aujourd'hui à ces putschistes qui envisagent une transition de 3 ans dirigée par un militaire?
Les putschistes avaient évoqué en fin de semaine dernière la mise en place d'un conseil de transition qui serait dirigé, avait-il dit, par un président civil ou militaire. Depuis, la junte qui a renversé Ibeka a précisé ses intentions. Elle parle non plus d'un civil mais d'un militaire qui serait à la tête de cet organe de transition pour une période de 3 ans. Il serait en même temps chef de l'État. Si aucun nom n'a été donné pour le moment, tous les regards sont tournés vers le nouvel homme fort de Bamako, le colonel Assimi Goïta, qui s'est proclamé président du Comité national pour le salut du peuple. Quant au gouvernement, il serait lui aussi composé en majorité de militaires. À l'issue de son entrevue qui a duré 9 heures hier avec les responsables du CNSP, la délégation de la CDAO conduite par Goodluck Jonathan a été peu déserte à sa sortie. Mais l'entourage du médiateur nigérian ne le cache pas, il faut une transition beaucoup plus courte. Si le sort de l'ancien président malien semble avoir fait l'objet d'un compromis, il va pouvoir quitter le camp militaire de Kati où il était retenu. Les discussions vont se poursuivre toute la journée. La délégation ouest-africaine espère finaliser un accord d'ici ce soir.
On savait déjà la Syrie plongée dans l'obscurité médiatique des guerres en partie oubliées. Or voilà que depuis hier, le pays tout entier est même littéralement plongé dans le noir. Après l'explosion d'un gazoduc dans les environs de la capitale, les autorités parlent d'un possible acte terroriste mais n'ont fourni aucun autre détail. Dernier procès en date contre les militants pro-démocratie en Algérie. Le journaliste Abdelkrim Zeghilesh a été condamné ce matin à 2 années de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale et outrage au chef de l'État. Une lourde peine qui témoigne, s'il fallait encore s'en convaincre, de la répression systématique actuellement à l'œuvre à l'égard du mouvement populaire anti-régime. La situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus continue de se dégrader dans le monde, incitant de nombreuses capitales, de Séoul à Helsinki, à durcir leurs dispositifs dans l'espoir d'éloigner le spectre d'une deuxième vague, à même de provoquer un nouveau séisme économique et social. En France notamment, même si un reconfinement général n'est pas à l'ordre du jour, les autorités privilégient à ce stade des mesures territorialisées et promettent des contrôles renforcés. Nous sommes dans une situation à risque, a prévenu hier le ministre de la Santé, Olivier Véran. Plus de 4500 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Et c'est d'ailleurs pour garantir la sécurité sanitaire que le gouvernement a décidé de décaler d'une semaine la présentation de son plan de relance de 100 milliards d'euros. Alors Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors officiellement, l'exécutif entend consacrer toutes ses forces à la mise en place des nouvelles mesures de lutte contre la propagation du virus, au moment même, on l'a dit, où la circulation s'accélère. Pour autant, est-ce la seule raison qui justifie ce report? Car on a du mal à comprendre comprendre, Anne-Laure, ce qui empêchait le gouvernement d'annoncer des mesures de nature à rassurer les Français face à l'urgence économique.
D'ailleurs, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le reconnaissait ce matin, la situation économique est tout aussi importante que l'urgence sanitaire. Mais ce que nous disent l'Élysée et Matignon, c'est qu'il fallait concentrer toutes les énergies sur la gestion de la crise, alors que nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire et de l'obligation du port du masque en entreprise. Il fallait même resserrer des boulons, selon les mots du locataire de Bercy chez nos confrères d'RTL. Les ministres concernés sont donc invités à s'assurer cette semaine de la bonne application des nouvelles mesures sanitaires. Et cette décision, elle a été prise vendredi après-midi lors d'une réunion de travail au fort de Brégançon entre le président de la République, Emmanuel Macron, et le Premier ministre, Jean Castex. Elle suscite effectivement des interrogations. Comment les tenants du « en même temps » n'ont-ils pas réussi à concilier les deux impératifs économiques et sanitaires, se demande un brin ironique, un habitué des arcanes du pouvoir. Est-ce un report pour muscler le plan de relance, s'interroge pour sa part l'insoumis Adrien Quatennens. À Bercy, on précise en tout cas que tout était prêt pour une présentation demain. Et Matignon l'assure, ce report n'entraînera pas de décalage dans la mise en œuvre du plan de relance. Certaines mesures sont d'ailleurs déjà entrées en vigueur, comme la prime à l'embauche pour les jeunes. Une occasion manquée en tout cas pour Jean Castex de faire sa rentrée sur une note offensive et positive avec ce plan de relance. Lui qui devait en assurer le service après-vente le lendemain devant les patrons lors de l'université d'été du MEDEF. Il faudra donc désormais attendre la première semaine de septembre, la semaine prochaine donc, avec le risque d'une présentation un peu occultée médiatiquement par les sujets sur la rentrée scolaire et le port du masque en entreprise.
Merci Anne-Laure Jumet. Alors vous le disiez, le gouvernement est notamment en train de préparer la mise en place des nouveaux protocoles sanitaires en entreprise, mais aussi dans les écoles, les collèges et lycées plus exactement à partir du 1er septembre, quand l'objectif de l'Élysée comme de Matignon semble être de rassurer au mieux les Français, dont un sondage IFOP pour le JDD nous apprenait hier que 53% des personnes interrogées se disent davantage inquiets du risque sanitaire qu'économique. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors cette inquiétude touche notamment le retour à l'école, un peu plus d'une semaine de la rentrée des classes maintenant, quand bien même une majorité de Français approuve le maintien de la date du 1er septembre, eh bien 33%, Hakim, se disent inquiets.
Oui, malgré tout, le ministre de l'Éducation se veut rassurant en indiquant que la France aurait, je cite, « l'un des meilleurs protocoles sanitaires d'Europe ». Quant au port du masque qui sera désormais obligatoire à partir de 11 ans dans les classes, il a rappelé ce matin chez nos confrères d'RMC qu'il sera bien à la charge des parents d'élèves, au même titre que les fournitures scolaires, mais qu'il y aurait bien des aides pour les familles en difficulté.
L'esprit, c'est d'avoir un jeu de masque lavable pour tous les élèves, et ça fait partie des fournitures de classe. Je rappelle que nous avons augmenté de 100 euros l'allocation de rentrée scolaire par enfant. C'est un chiffre considérable. Ceci doit permettre de faire face à toutes les difficultés que les familles peuvent rencontrer pour une rentrée scolaire, et d'avoir donc beaucoup plus de moyens que les années précédentes pour préparer la rentrée des enfants.
De son côté, le conseil scientifique, qui, on s'en souvient, était très réservé en mai dernier sur la réouverture des écoles, eh bien, il se dit désormais maintenant confiant. Jean-François Delfraissy, son président, au micro de France Info.
Le fait que les enfants sont porteurs de virus, mais finalement en relative, en petite quantité. Deuxièmement, on peut affirmer que les formes graves chez l'enfant sont exceptionnelles. Troisièmement, il est fondamental que l'école reprenne. Il y a une vision sanitaire, mais il y a une vision aussi de société. Il faut que les enfants puissent reprendre. On ne peut pas laisser cette génération d'enfants sans reprendre. Ça a fait le job, je dirais, avec l'enseignement à distance, et c'est bien, hein, mais que partiellement. Les enfants des familles les plus défavorisées restent les plus touchés.
Effectivement, rappelons qu'après le déconfinement, 34% des élèves issus de zones d'éducation prioritaire ont décroché.
Merci Hakim Kasmi, l'invité de la rédaction à présent, le député de la France Insoumise, Éric Coquerel. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Avec vous monsieur Coquerel, nous allons bien entendu revenir sur les universités d'été de votre parti qui se tenaient depuis jeudi dernier dans la Drôme. L'occasion notamment pour Jean-Luc Mélenchon d'annoncer qu'il prendra sa décision quant à une éventuelle candidature à la présidentielle en octobre prochain. Mais avant cela, nous évoquions à l'instant le report donc à la semaine prochaine de la présentation du plan de relance de l'exécutif. Comment interprétez-vous cette décision, Éric Coquerel, officiellement pour garantir la sécurité sanitaire?
Alors vous l'avez dit vous-même, c'est dans vos reportages, c'est quand même assez incompréhensible. Nous, ça fait malheureusement assez longtemps qu'on demande au gouvernement qu'est-ce qu'il a mis en place d'un point de vue strictement sanitaire pour une éventuelle deuxième vague, bon, qu'on craint tous, et que pour notre part, nous sommes prononcés en estimant qu'elle était malheureusement probable. On n'a pas eu de réponse, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit on peut pas faire le plan de relance qui normalement est concocté depuis des mois, parce que tous les efforts du gouvernement doivent être liés à cette éventuelle deuxième vague. Bon, ça sent l'improvisation. Faut-il qu'ils aient autant affaibli l'État depuis des années à coup de politique libérale pour qu'on ne soit pas capable de faire les deux choses à la fois? Enfin, tout ça est incompréhensible. D'autant plus quand on prend des mesures, je prends un exemple, quand monsieur Blanquer prend la mesure de rendre le masque obligatoire à l'école pour les enfants de plus de 11 ans. Nous, on dit soit. Si on pense que c'est nécessaire, très certainement qu'il y a d'un point de vue médical des raisons, mais dans ces cas-là, il faut que les masques soient gratuits, par exemple. C'est-à-dire que on assure l'égalité à l'école, la gratuité à l'école, dès lors que des masques sont nécessaires. Bon, et là, on voit bien que là, ça sent l'improvisation totale. Donc, moi, une fois de plus, je suis assez inquiet de la manière dont ce gouvernement prépare une éventuelle deuxième vague, peut-être aussi mal qu'il a préparé le premier confinement.
Question de Stéphane Robert.
Monsieur Coquerel, Jean-Luc Mélenchon a annoncé hier, lors de la clôture de vos universités d'été à Châteauneuf-sur-Isère, qu'il se déclarera d'ici le mois d'octobre. Nous serons à un an et demi de l'échéance de l'élection présidentielle. Pourquoi si tôt ?
Bah écoutez, vous parlez, c'est assez amusant et paradoxal, parce que la question des journalistes, à vous entendre, il faudrait au contraire déjà s'être déclaré. Donc c'est pas forcément si tôt. Et je vous fais remarquer que manifestement, Monsieur Macron est déjà en campagne présidentielle. Il a déjà lancé le lancement de cette campagne. Expliquer que tout le monde l'attendant, Jean-Luc prendra sa décision, Jean-Luc Mélenchon prendra sa décision en novembre, moi ça me semble pas tôt. La question c'est pourquoi pas avant plutôt. Pourquoi pas avant? Parce que justement, il nous semble que cette rentrée sera d'abord sous la critère de la question sociale, sanitaire, avec manifestement une crise qui va révéler toute son ampleur, bien plus importante qu'elle l'a été ces derniers mois, parce que là, il y a eu des amortisseurs, je pense au chômage partiel, je pense à un certain nombre de mesures, et on voit bien que beaucoup d'entreprises, malheureusement, annoncent des licenciements, donc la crise sociale devrait être très forte. Il y a aussi la crise sanitaire qui est risquée, parce que moi, je n'ai pas vu de progrès, malheureusement, dans l'hôpital qui me montrerait qu'on est capable d'assumer et de gérer la une éventuelle deuxième vague mieux que ça a été fait pour lors du confinement. Donc l'urgence aujourd'hui, je crois, n'est pas de parler présidentiel, de parler candidature, c'est d'abord de se préparer nous en tant que force pour aider un tant soit peu nos compatriotes.
Mais ce sera quand même le mois prochain, hein, puisqu'il a annoncé pour le mois d'octobre. Est-ce que vous voyez quelqu'un...
Il a dit qu'il prendrait sa décision en octobre, et je vous rappelle que nous avons des instances, une convention, notamment en novembre, donc ça nous renvoie dans quelques mois. Je crois que c'est bien que la décision soit prise suffisamment tôt pour qu'on puisse se préparer et en même temps qu'on puisse attendre que la rentrée se fasse pour que, encore une fois, on concentre tous nos efforts sur ce que moi je crois nécessaire, c'est-à-dire une proposition d'un bouclier social et sanitaire qu'on pourrait faire aux syndicats, aux associations, aux autres forces de gauche, aux collectifs citoyens, pour être capable de peut-être faire ce que l'État n'est pas capable de faire.
Est-ce que vous considérez qu'il vous faudra résoudre d'ici 2022 la question du leadership à gauche? Et dans cette perspective, les écologistes sont-ils, qui tenaient eux aussi leurs universités d'été ce week-end, sont-ils vos principaux concurrents?
Je ne sais pas trop ce que veut dire le leadership à gauche, parce que si, comme par exemple semble entendre Europe Écologie, on considère que on peut regrouper sous un même vocable des forces qui vont de gens qui ont été ou qui sont encore proches d'Emmanuel Macron jusqu'à la gauche radicale, je n'y crois pas. Je pense que depuis des années deux lignes à gauche, deux lignes dans le camp du progrès qui sont celles de l'accommodement avec le libéralisme qui n'est plus supportable et celle de la rupture que nous incarnons. Et je crois que ces élections présidentielles, on ne fera pas, il n'y aura pas un coup de baguette magique pour résoudre cette question. Donc déjà, c'est un peu cette question qui est à poser. Nous, pour notre part, on pense que il faudra un candidat qui incarne à la fois la question de la rupture au niveau de l'écologie, de l'environnement, parce qu'elle n'est pas compatible avec le tout marché, au niveau de la question sociale, de toutes les explosions des inégalités, des licenciements, la nécessité de nationalisation, d'un retour au service public, mais également la question de la souveraineté, de la démocratie, qui inclut la rupture avec les traités européens et une sixième république. Bon, on verra bien avec qui on est capable de construire ça. Nous, on est ouvert à toutes forces qui ont envie de bâtir là-dessus. Aujourd'hui, pour répondre franchement, je ne suis pas certain que toute Europe Écologie souhaite prendre une telle ligne de rupture, et c'est ça la question plutôt qui est posée.
Merci Éric Coquerel, député, je le rappelle, de la France Insoumise, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Stéphane Robert. On termine avec un mot de la couleur du ciel. Le temps de cet après-midi sera nuageux de la Bretagne et des Pays de la Loire aux Hauts-de-France, avec quelques gouttes possibles au nord de la Seine. Partout ailleurs, le temps sera sec et les nuages laisseront même percer de belles éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 21 et 34 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.